Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le privilège de traiter cet après-midi le sujet « Dur à Salem, leçon pratique de la vie d'Abraham ». Nous commençons par la naissance d'Abraham à Ur. Il a eu lieu, selon la chronologie stricte de la Bible, à l'an 2111 avant Jésus-Christ. Donc, dans les siècles après le déluge. Et je lis en Genèse 11, à partir du verset 27. Et ce sont ici les générations de Térakh. Térakh engendra Abram, Nakhor et Haran. Et Haran engendra Lot. Et Haran mourut en la présence de Térakh, son père, au pays de sa naissance, à Ur, des Chaldéens. Voilà. Abraham a vécu après le déluge. Il représente en fait la 10e génération depuis Sem, fils de Noé. Vous avez ici cette chronologie de génération comme elle nous est présentée en Genèse 11. Et ce qui est à noter particulièrement, ce sont les dernières générations juste avant Abraham, Térakh, Nakhor et Serug. Pourquoi? Voilà quelques explications concernant l'archéologie et la Bible. Aujourd'hui, nous savons que les noms comme Serug, Nakhor, Térakh et aussi Abraham sont des noms typiques pour l'époque vers 2000 avant Jésus-Christ. Ceci est bien sûr un témoignage de l'archéologie à la crédibilité, à l'authenticité de l'histoire d'Abraham. Voilà ce témoignage de ces noms, nous avons des textes assyriens et babyloniens. Donc si quelqu'un voudrait dire l'histoire d'Abraham s'est inventée et beaucoup plus tard, alors il devrait nous expliquer comment celui qui aurait inventé cette histoire aurait su quel nom il fallait choisir pour cette époque. Voilà, la Bible parle donc de cette ville de naissance d'Abraham comme la ville d'Ur des Chaldéens, qui se trouve, comme vous voyez, au sud de l'Irak actuel, 150 km à l'ouest de Basra. Et voilà, par les tablettes d'Ebla, qu'on a trouvées au nord de la Syrie, nous savons qu'il y avait aussi une autre ville de nom Ur, mais Ur vers Haran. Et alors, pour faire la différence, le texte biblique parle de la ville d'Ur des Chaldéens, qui se trouve au sud de l'Irak, et non pas là au nord, vers Haran. Voilà, on a fait des excavations à Ur, déjà au 19e siècle, c'était M. Taylor, et après la Première Guerre mondiale, Reginald Thompson, mais les excavations les plus importantes ont été faits dans les années 1922 à 34 par Sir Leonard Woolley. Par lui, nous connaissons la ville, vraiment la ville d'Abraham. Et nous savons par ceci, à l'époque d'Abraham, les eaux de l'Euphrate coulaient encore le long de la ville d'Ur. Et voilà, ça donnait l'accès à la mer, ce qui était idéal pour le commerce. Et par l'archéologie, nous savons que vers 2100 avant Jésus-Christ, donc l'époque d'Abraham, Ur était la ville la plus riche de la Mésopotamie, donc de la région entre l'Euphrate et le Tigre. C'était une ville de commerçants et d'artisans, et par les inscriptions, nous savons qu'ils avaient, les gens d'Ur, un mépris profond pour les nomades. Et ceci est intéressant. En vue de la disponibilité d'Abraham, nous allons en parler encore, à devenir un nomade. Voilà, ici, la Zikourat à Ur. C'était bien sûr une copie, en fait, de la tour de Babel, qui a été construite partiellement juste après le déluge. Mais en Mésopotamie, on a fait beaucoup de copies de cette tour après cette époque. Et voilà aussi, à l'époque d'Abraham, il y avait une telle copie dans cette ville qui avait une place centrale, comme nous allons voir encore. Voilà, le territoire du temple est complètement excavé, car il faut dire, la Zikourat avait la fonction d'un temple. Et aussi une partie du quartier habité et du quartier des commerçants est excavée à Ur des Chaldéens. On a fait la découverte du cimetière des rois du temps avant Abraham, avec des objets d'art en or, argent, bronze, ornés de pierres précieuses. On a aussi fait la découverte de milliers de tablettes cunéiformes. Voilà des textes littéraires et administratifs du temps d'Abraham, ou avant, jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Nous apprenons par le livre de Josué, un demi-millénaire après Abraham, que cet homme, Abraham, était autrefois un idolâtre. Voilà Josué 24, verset 2. Et Josué dit à tout le peuple, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nakhor, ont habité anciennement au-delà du fleuve, c'est-à-dire de l'Euphrate. Et ils ont servi d'autres dieux. Et je prie votre père Abraham, dit Dieu, d'au-delà du fleuve, et je le fis aller par tout le pays de Canaan, et je multipliai sa semence. » Multipliai sa semence. Josué 24, 14. « Et maintenant, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le en intégrité et en vérité, et ôtez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve, et en Égypte, et servez l'Éternel. Et s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos pères, qui étaient de l'autre côté du fleuve, ont servi, soit les dieux de l'Amoréen, la religion des Cananéens, dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué présente ici trois religions, fausses religions. La religion des Sumériens, à Ur des Chaldéens, la religion des Cananéens et la religion de l'Égypte. Et il dit, « Moi et ma maison, nous voulons servir l'Éternel, le Dieu de la Bible. » Eh bien, quelle était la religion d'idolâtrie d'Abraham? La divinité principale d'Ur était le dieu sumérien de la lune, appelé Nanna. Cette divinité est revêtue de presque tous les attributs divins dans les hymnes des anciens sumériens. Par exemple, les Sumériens ont dit « Nanna a choisi la ville d'Ur ». Donc, Ur était la ville du dieu de la lune. Elle était considérée comme sa propre ville. Ur des Chaldéens est plusieurs fois mentionné dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, en Genèse 11, 28, 31, chapitre 15, verset 7, et aussi en Néhémie 9, verset 7. Et voilà, la Zikourat, cette copie de la tour de Babel, était dédiée à Nanna, le dieu de la ville d'Ur. Voilà, c'était en quelque sorte un temple en forme de pyramide qui représentait en fait une montagne de temples. Un temple en forme de pyramide à étages avec le lieu très saint en dessus. Voilà, Romains 1 nous présente une critique des religions humaines par la Bible. Romains 1, verset 24, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi, en parlant des nations en général dans le monde, c'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur, à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, qui est béni éternellement. Amen. » Paul explique, l'idolâtrie, c'est en fait la vénération, l'adoration de la création au lieu du Créateur. Une chose assez actuelle, si un professeur de biologie aujourd'hui parle des papillons en disant, vous voyez, comme la nature l'a fait d'une manière merveilleuse. Qui a fait ça? La nature. Alors là, ce professeur de biologie donne des attributs à la création qui sont seulement dignes de Dieu. Ainsi, c'est l'idolâtrie. Et voilà, le Dieu impuissant de la lune. En Genèse 11, verset 29, nous lisons, « Et Abraham et Nakhor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nakhor, Milka, fille de Haran, père de Milka et père de Jiska. Et Saraï était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. » N'est-ce pas? Si on connaît l'arrière-plan sumérien de la ville d'Ur, ça doit nous frapper. Cette note de Moïse, et Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Car la foi des Sumériens concernant Nana était exprimée ainsi. Nana multiplie les hommes et les animaux. Saraï était stérile. Et voilà Abraham. Abraham avait autrefois le nom Abram. Lorsqu'il était encore à Ur. Seulement plus tard, Dieu a changé son nom en Abraham. Mais Abraham veut dire, en français, « père élevé ». Mais sa femme était stérile. Qu'est-ce que c'est un père sans enfant? Un père élevé sans enfant, ça ne fonctionne pas. Et voilà, Abraham a vécu que le Dieu de la lune est impuissant de lui donner une semence, une descendance, des enfants. Mais plus tard, le Dieu de la Bible va donner le nom Abraham, ce qui veut dire père d'une multitude. Et voilà, finalement, il va devenir père d'Isaac et avec ça, père du peuple d'Israël. Voilà, depuis 1969, on est absolument conscient du fait que la Lune n'est pas une déité. N'est-ce pas, les Américains sont allés marcher dessus et on a vraiment réalisé que c'est simplement un dieu mort de la lune. C'est une pierre et voilà, le visage est cassé, pas beaucoup de trous, comme vous voyez. Et nous comprenons pourquoi Saraï n'avait pas d'enfant à l'aide de Nana. Mais tout d'un coup, le Dieu de la Bible se révèle à Abraham. Et nous avons l'appel d'Abraham en Genèse 12, verset 1er. Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Tiens, tout d'un coup, le seul vrai Dieu apparaît à Abraham pour lui dire, je ne te donne pas simplement un fils, je te fais père d'une nation. Et voilà. Lorsqu'on lit le texte en Genèse 11 et 12, on a peut-être un problème. On pense, lorsqu'on lit, Abraham est d'abord sorti d'Ur des Chaldéens pour aller à Haran, qui se trouve au sud de la Turquie actuelle. Et seulement là, Dieu l'a appelé à sortir pour aller au pays de Canaan. Mais lorsque nous lisons le Nouveau Testament, Acte 7, nous avons le discours tenu par Étienne devant le Sanhédrin, la cour suprême d'Israël. D'ailleurs, cette place, on peut exactement montrer aujourd'hui sur l'esplanade du Temple, ici au coin sud-est, c'était là la place de la cour suprême dans le portique royal. Ici, exactement, était Étienne devant le Sanhédrin, devant le souverain sacrificateur. Acte 7, verset 1er. Et le souverain sacrificateur dit, « Ces choses sont-elles ainsi ?» Et il dit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habitât en Charan. Et lui dit, « Sors de ton pays et de ta parenté et viens au pays que je te montrerai. » Alors, sortant du pays des Chaldéens, il habita en Charan, et de là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Et il ne lui donna pas d'héritage dans ce pays, pas même où poser son pied, et il lui promit de lui donner en possession, et à sa postérité après lui, alors qu'il n'avait point d'enfant. Vous voyez, le texte est clair? Donc cet appel en Genèse 12, verset 1er, a eu lieu encore à Ur des Chaldéens. Encore une chose remarquable. Lorsque Étienne explique Genèse 12, il dit, cet appel de l'Éternel était ainsi, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Donc Abraham avait une vision de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que c'est d'avoir une vision de la gloire de Dieu? Eh bien, nous avons un parallèle lorsque Saul, qui est devenu plus tard Paul, a rencontré le Messie ressuscité. Et voilà, Paul donne son témoignage de sa conversion en Acte 26, 13, en disant, « En chemin, en plein midi, je vis. » Il parle au roi Agrippe. Au roi, une lumière plus éclatante que la splendeur du soleil, laquelle resplendit du ciel. Eh bien, comparez cette gloire de la lumière qui venait de la présence de Dieu, plus forte, plus intensive que la lumière du soleil, avec la faible lumière de la lune, la nuit. Les Sumériens, voilà, il désignait Nanna comme la gloire du ciel. Mais qu'est-ce que c'est la gloire de la lune comparée à cette lumière? Le Dieu de la gloire apparu à notre père Abraham. N'est-ce pas? Abraham n'avait pas encore la Bible comme nous. Et Dieu s'est révélé de cette façon-là. Et voilà cet appel de l'Éternel, Genèse 12, verset 1er. Et correctement traduit dans la version Darby, avec un plus que parfait. Et l'Éternel avait dit à Abraham, il faut traduire comme ça, et c'est à justifier par la grammaire hébraïque, dans ce cas-là, pour expliquer que cet appel avait déjà lieu avant, n'est-ce pas? Genèse 11 à la fin parle d'Abraham qui est sorti d'Ur pour aller à Charan. Ensuite l'appel, mais cet appel revient chronologiquement. Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays. » En hébreu, « Lech lecha ». « Lech » veut dire « va ».« Lecha » littéralement pour toi. Et puisque ce n'est pas du français, on n'a pas littéralement traduit « va-t'en pour toi ». Toujours en hébreu moderne, on utilise cet idiome, lech lecha, ça veut dire va, mais dans ton propre intérêt. C'est bien pour toi. Donc Dieu fait un appel, mais en disant lech lecha, il explique à Abraham, si tu es obéissant, ça vaut la peine. C'est bien pour toi. Et par cela, nous apprenons, parce que nous voulons aujourd'hui apprendre des leçons de la vie d'Abraham. Lorsque Dieu nous commente n'importe quoi dans sa parole, c'est toujours bien pour nous. Et lorsque nous avons une révolte intérieure contre un commandement de Dieu, il faut toujours se souvenir, « Lech lecha », c'est bon pour toi. C'est dans ton intérêt personnel d'obéir l'Éternel. Ensuite, nous avons déjà lu au verset 2, Dieu dit, « Et je te ferai devenir une grande nation. » Pas seulement multiplier Abraham, mais il doit devenir le père d'une grande nation. Mais pas de n'importe quelle nation. Il y a tant de nations dans le monde actuel, n'est-ce pas? Mais devenir le père de la nation d'Israël. Le père de la nation choisie. Il y a seulement un peuple que Dieu a choisi sur cette terre. Et Abraham devait devenir le père de cette nation. Et plus, au verset 2, à la fin, nous avons lu « Et tu seras une bénédiction » à la fin du verset 3. « Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Comment une bénédiction, être une bénédiction pour le monde entier? Eh bien, c'est ici déjà une prophétie concernant le Messie, le Sauveur promis, qui devait finalement sortir de cette descendance d'Abraham, de ce peuple d'Israël. Et le Sauveur promis par Dieu devait devenir une bénédiction pour toutes les nations du monde. Voilà, c'est déjà une annonce un peu cachée concernant le Messie. Donc, il ne sera pas seulement père d'enfants, père d'une nation, mais même père du Sauveur du monde. Et voilà, le Seigneur Jésus explique en Jean 8, 56, Abraham, en s'adressant aux Juifs conducteurs à l'époque, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et l'a vu et s'est réjoui. Abraham a compris les promesses de Dieu concernant le Messie. Une bénédiction pour le monde entier. Et comment? Eh bien, Jean 3, 16 nous explique que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le Messie devrait être une bénédiction pour le monde entier dans ce sens-là que chaque nation et chaque personne est appelée à venir vers le Seigneur Jésus pour obtenir le salut par son sacrifice de substitution à la croix du calvaire. Pas tous les hommes seront sauvés un jour, mais la Bible nous dit que des hommes et des femmes de chaque nation, de chaque langue, de chaque tribu seront un jour sauvés. Apocalypse 5 et Apocalypse 7. Voilà une bénédiction pour le monde entier. En toi seront bénis, pas tous les hommes, mais toutes les familles de la terre. Hébreux 11, verset 8, nous explique, explique l'obéissance d'Abraham. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage. Et il s'en alla, ne sachant où il allait. Le texte grec est clair qu'il s'agit ici d'une obéissance immédiate. Voilà quelques remarques concernant la grammaire grecque ancienne. Nous avons ici donc les termes « appeler » et « obéir ». Et la construction est ainsi, nous avons ici un participe présent avec un aoriste indicatif. Et cela veut dire que l'appel et l'acte de l'obéissance étaient en même temps. Alors, cela nous montre qu'Abraham n'avait pas demandé 6 mois pour réfléchir. Mais on aurait pu comprendre, n'est-ce pas? Devenir un nomade, quelqu'un de la ville, dur, où l'archéologie a montré que la classe moyenne a vécu dans des maisons de 10 chambres. Abraham n'était pas de la classe moyenne, mais de la haute classe. Mais il était prêt à devenir un nomade pour vivre dans des tentes. Et il a tout de suite obéi à l'appel de Dieu. Maintenant, nous lisons concernant son exode de la ville d'Ur, après l'appel de Dieu. Genèse 11, verset 31. Et Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan et habitèrent là. Et les jours de Térakh furent 205 ans, et Térakh mourut à Charan. C'est un peu étrange, n'est-ce pas? Ici, il est dit « Térakh prit Abraham ». Le père prend l'initiative. Et le père vient avec. Mais n'est-ce pas, nous avons lu en Genèse 12, verset 1er, et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Donc, il fallait sortir de la maison du père. Donc, le père ne devait pas venir avec. Il devait rester à Ur. Mais le père vient avec. Donc, c'est une désobéissance d'Abraham. En plus, il ne vient pas simplement avec, mais il prend l'initiative. Il est le conducteur. En plus, le texte biblique précise « Va-t'en de ton pays et de ta parenté. » Mais il a pris avec Lot, qui était son neveu. Il ne fallait pas prendre avec Lot, parce qu'il faisait partie de la parenté. Lot devait rester comme témoin à Ur des Chaldéens et pas aller finalement à Sodome. Voilà, on peut obéir Dieu, obéir immédiatement et être désobéissant à la fois. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais c'est possible. Et voilà, ils sont allés jusqu'à Charan. Vous voyez, on est dans à l'époque de l'Antiquité, on n'est jamais allé directement depuis le sud de l'Irak, à travers le désert, au pays de Canaan, qui plus tard est devenu le pays d'Israël. Parce que ce chemin était excessivement dangereux. Donc, on a pris le chemin à travers les pays fertiles, on montait là, au long de l'Euphrate, pour après descendre depuis la Syrie, ou depuis Charan, qui se trouve juste au sud de la Turquie actuelle. Voyez. Ce chemin que vous voyez ici, c'est le chemin normal pour aller au pays de Canaan depuis Ur des Chaldéens. Mais le texte biblique précise, ils vont jusqu'à Charan et ils restent là-bas. Blocage. Genèse 11, 31, à la fin. Et ils vinrent jusqu'à Charan et habitèrent là. Voilà, nous apprenons, si nous ne sommes pas vraiment obéissant à la parole de Dieu. Et cela veut dire, entièrement obéissant, il y aura un blocage dans notre vie spirituelle. On continue, et tout d'un coup, ça s'arrête. On se demande, mais pourquoi? Pourquoi je ne continue pas? N'est-ce pas? Dieu voulait Abraham comme témoin au pays de Canaan, et pas à Charan. Mais il était bloqué. Quoi faire lorsque notre vie spirituelle est bloquée? Eh bien, nous avons lu en Genèse 11, 31, et ils vinrent jusqu'à Charan et habitèrent là. Et les jours de Térakh furent 205 ans et Térakh mourut à Charan. Il fallait la mort du blocage. D'ailleurs, entre deux, le séjour à Charan est intéressant car cette ville également, comme Ur des Chaldéens, était une ville où on vénérait particulièrement le dieu de la lune. C'est étrange, hein? D'une ville de la lune, il va à une autre ville de la lune et il habite là-bas. D'ailleurs, par l'archéologie moderne, nous savons aujourd'hui que la ville de Charon était un centre du commerce vers 2000 avant Jésus-Christ, mais entre 1800 et 800 avant Jésus-Christ, c'était un lieu abandonné. C'est important parce que des libéraux ont dit « Oui, mais le livre de Moïse, la Genèse, ça n'était pas écrit par Moïse vers 1600 avant Jésus-Christ, mais 1000 ans plus tard, presque 1000 ans plus tard. » Et voilà donc par des gens qui ont simplement inventé toutes ces histoires. Ah ah! Et comment ils ont su à cette époque ultérieure que dans l'histoire d'Abraham, on peut choisir comme un point dans son voyage Charon? Parce qu'à cette époque-là, il y avait encore cette ville. Mais cette époque, n'est-ce pas, fictif. Mais plus tard, bien sûr, il n'y avait plus. Vous voyez, ils auraient pu facilement une erreur. Mais nous voyons, c'est absolument correct. Les noms qui sont choisis sont corrects. Les villes choisies sont correctes dans l'histoire. Donc, c'est également un argument pour l'authenticité de cette histoire. Mais nous avons vu, il y a eu ce blocage. Et lorsque le blocage est mort, la vie d'Abraham reprend par une sorte de résurrection. C'est la première expérience de trois expériences de résurrection de la vie d'Abraham. Et pour nous, pratiquement, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque nous réalisons où nous étions désobéissants à la parole de Dieu, il faut réaliser que le Seigneur Jésus a dû mourir pour cette désobéissance. 1 Jean 1, verset 9 nous explique, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Et voilà, ainsi, nous mettons la désobéissance à la mort. Lorsque nous sommes conscients, Dieu a dû juger le Seigneur Jésus, l'a dû le mettre dans la mort à cause de ce péché de désobéissance qui était sur lui lorsqu'il était cloué à la croix. Et ainsi, la vie spirituelle peut continuer. Abraham atteint finalement le but. Genèse 12, verset 4. « Et Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot s'en alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient amassés, et les âmes qu'ils avaient acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan. Et ils entrèrent au pays de Canaan. » Vous voyez, comme le texte insiste, Abraham atteint le but parce qu'il a coupé ce blocage. Voilà le chemin de Charan à travers la Syrie pour aller finalement au pays de Canaan. En Hébreux 11, verset 9, nous lisons « Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes, donc plus des maisons avec 10 chambres ou plus, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. » Voilà, ce texte nous parle de la Jérusalem céleste, qui est une ville véritable au ciel. N'est-ce pas, la Bible nous parle d'un temple de Dieu dans le ciel, Apocalypse 11, 19, mais il nous parle en Hébreux 11, Hébreux 13, Hébreux 12, Hébreux 13, Galates 4, d'une Jérusalem céleste. Il ne faut pas confondre avec la nouvelle Jérusalem en Apocalypse 21. Là, c'est un symbole pour l'Église. Mais, bien sûr, un symbole qui reflète cette ville vraie, la Jérusalem céleste. Et voilà, Abraham avait donc la connaissance que Dieu lui a promis, finalement, après sa mort, il va aller au ciel pour habiter dans la Jérusalem céleste. Et bien sûr, lorsqu'il est venu à Canaan, il est aussi venu à Salem. La première fois en Genèse 14, lorsqu'il a rencontré le roi Melchisédek, roi de Salem. Et Salem, c'est une abréviation de Jérusalem. Et plus tard, nous allons voir, Abraham est allé au pays de Morija, Genèse 22, et nous allons voir, c'est la région de Salem, de Jérusalem. C'est pour ça que j'ai intitulé notre conférence « Dur à Salem ». Mais Abraham n'a pas pris possession de cette Jérusalem terrestre, mais il savait, je vais hériter après ma mort la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem terrestre va être pour les descendants sur terre. Donc la Jérusalem terrestre est en quelque sorte un reflet de la Jérusalem céleste. Genèse 12, verset 6. Nous continuons la lecture du texte biblique. Et Abraham passa au travers du pays, jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Voilà le premier lieu au pays de la promesse mentionné dans le texte biblique. Sichem. Et le Cananéen était alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham. Voilà la deuxième vision. Et dit, « Je donnerai ce pays à ta semence. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Aujourd'hui, la ville de Sichem, c'est Nablus, une des plus grandes villes palestiniennes en territoire occupé de la Cisjordanie. Et le texte biblique nous parle d'Abraham qui arrive au pays de la promesse. Il va à Sichem et là, Dieu apparaît dans la vision, le Dieu de la gloire. Et vous voyez, ce n'est pas une vision pour un détail de la vie, pour retrouver un crayon qu'on a perdu, ou, n'est-ce pas? Mais il s'agit ici d'une promesse, d'une signification fondamentale pour l'histoire sainte. Dieu dit, je donnerai ce pays à ta semence. Mais c'est quand même remarquable. Dieu ne dit pas cela, disons, à la région de Haïfa aujourd'hui ou à Beersheba. C'est brûlant, même beaucoup moins brûlant. Mais il le dit à Sichem, à Nablus. Je te donnerai ce pays à ta semence. Est-ce que Dieu savait à l'époque, il y a 4000 ans, que l'ONU va un jour être contre cette pensée des Juifs à Nablus? Bon, bien sûr. Et voilà, le Dieu qui connaît tout à l'avance nous raconte l'histoire de cette façon. Il arrive à Sichem, à Nablus. Je donnerai ce pays à ta semence. Voilà la promesse du pays pour Israël. Et nous avons lu, Abraham a réagi. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. C'est le premier autel dans la vie d'Abraham pour remercier Dieu pour cette promesse fondamentale. Et voyez, l'autel où il a sacrifié un sacrifice ou des sacrifices parle de la mort du Messie qui va venir. Et avec ça, il exprime symboliquement le merci à Dieu qu'il va accomplir toutes ses promesses, pas parce que ses descendants, le peuple d'Israël, a mérité ce pays, mais sur la base de la grâce de Dieu dans le sacrifice de Jésus-Christ. Un demi-millénaire plus tard, voilà, la nation d'Israël est entrée sous Josué au pays de la promesse. Et à la fin de la conquête de Canaan, Josué rassemble le peuple à Sichem, à Nablus. Et au verset 26 du chapitre 24, nous lisons, « Et Josué écrivit ses paroles dans le livre de la loi de Dieu, et il prit une grande pierre et l'adressa là sous le chêne qui était auprès du sanctuaire de l'Éternel. » Et Josué dit à tout le peuple, « Voici cette pierre sera témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles de l'Éternel qu'il nous a dites. Elle sera témoin contre vous, de peur que vous ne reniez votre Dieu. » Donc, Josué explique au peuple d'Israël, vous avez maintenant le pays. Vous l'avez reçu. Mais il faut rester fidèle à l'Éternel. Autrement, vous allez perdre le pays. Et il met une pierre comme témoignage de cette alliance renouvelée à Sichem. Et avec ça, le texte biblique nous explique cette grande pierre, il a dressé sous le chêne qui était auprès du sanctuaire de l'Éternel. Un sanctuaire à Sichem, c'est peut-être le tabernacle que Josué a dressé au pays de Canaan. Ah non, le livre de Josué dit c'était à Shiloh, aussi en Cisjordanie, territoire occupé, mais c'est un autre lieu, pas à Sichem. C'est quoi donc ce sanctuaire de l'Éternel? C'est tout simple, c'était ce sanctuaire sous plein air d'Abraham, vers le chêne de Morée. Donc là où Abraham a remercié sur la base du sacrifice pour la promesse que Dieu va donner le pays d'Israël, pas parce qu'il a mérité, mais sur la base de la grâce, il met cette pierre pour montrer à Israël la responsabilité pour être obéissant, autrement ils vont perdre le pays pour un temps. Pour finalement le recevoir de nouveau, mais sur la base de la grâce et pas du mérite. Voilà, Genèse 12, verset 8. « Et il se transporta de là, vers la montagne, à l'orient de Bethel, et tendit sa tente, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit là un autel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel. Et Abraham partit marchant et allant vers le midi. » Alors, il marche à travers le pays de Canaan, mais pas n'importe où. Il marche en Cisjordanie, territoire occupé. Et toujours en Cisjordanie, entre Bethel et Haï, voilà le deuxième autel d'Abraham pour remercier Dieu qu'il va donner ce pays à sa descendance. Nous avons dans la vie d'Abraham quatre autels. Autels qui sont importants pour quatre stations fondamentalement importantes dans la vie d'Abraham. Dans la vie d'Isaac, nous allons avoir quatre puits. Et dans la vie de Jacob, quatre pierres. Juste une indication pour une étude future.